Donc, les vidéos en ligne font partie intégrante de nos vies aujourd'hui, surtout quand nous rencontrons des difficultés, nous voudrions apprendre des nouvelles choses. C'est souvent les vidéos explicatives auxquelles nous avons recours. YouTube va avoir 20 ans d'existence l'année prochaine, pour ne parler que de cette plateforme importante. Et les domaines liés à l'image en mouvement numérique, domaines économiques, artistiques, créatifs et éducatifs sont extrêmement dynamiques. Nous apprenons, pour parler d'eux, circulent sur Instagram, TikTok et non plus tant sur YouTube finalement, mais c'est l'image en mouvement numérique qui est centrale. Il existe une multitude de types de vidéos en ligne. Leur nombre croît tous les jours et sur les plateformes, on trouve côte à côte des productions de la télévision, du cinéma, habituées dans le passé à un rapport vertical avec leur public, c'est-à-dire un nombre restreint de personnes professionnelles créent des contenus. On parle alors de verticalité qui a encore marqué Internet avant le passage au web social. Et des productions des internautes eux et elles-mêmes qui sont marquées par un rapport horizontal avec leur public et par ce que Jenkins appelle la culture collaborative. Les notions même de professionnels et d'amateurs et d'amatrices s'en trouvent forcément bousculées. Et maintenant, nous avons même les productions de l'intelligence artificielle, dont je n'ai pas traité dans ma thèse. Qui avait la collecte des données était antérieure et c'est une évolution toute récente. Le tout est lié à, je crois que c'est, voilà, le tout est lié à des modèles économiques qui sont propres et qui créent des dynamiques sociétales spécifiques, notamment la dynamique virale. Ce sont donc les utilisateurs, utilisatrices. Eux et elles-mêmes qui donnent de l'autorité aux producteurs de contenu, et on peut résumer les dynamiques virales par la formule plus un contenu est regardé, plus il est regardé. Les études menées sur les contenus sur YouTube, par exemple, montrent par contre que la grande majorité des contenus ne sont pas regardés, n'ont pas de public. Donc, une toute petite partie, moins d'1% des contenus réunissent plus de 80% des visionnages. La vidéo et l'enseignement apprentissage des langues, ce qui j'avais envie de mettre en avant, c'est le lien qui est assez intéressant dans une perspective diachronique entre la vidéo et l'auto-formation d'un côté, l'apprentissage autonome, et de l'autre, l'apprentissage hors les murs, entre guillemets, dans les formations à distance ou en ligne et dans les phases distancielles au sein des formations YouTube. Les vidéos ont été centrales, sont centrales notamment dans les cours télévisés destinés à l'auto-apprentissage des langues, la période antérieure, les centres de ressources en langue qui s'étaient intéressés très vite à la vidéo. Et dans les formations ouvertes et à distance, les vidéos ont été utilisées dès les cassettes vidéo et les vidéos disques, et elles jouent aussi un rôle central dans les MOOC, les Massive Open Online Courses, qui ont connu un certain engouement il y a une dizaine d'années. Et dans les formations hybrides, plus spécifiquement les pratiques dites en classe inversée, les vidéos sont centrales en phase distancielle. Dans ma thèse, je me suis intéressée de plus près au travail avec des vidéos en ligne créées dans un but communicatif, donc dites authentiques, et à la question de la manière dont les tâches pédagogiques peuvent soutenir l'accès au sens de ces vidéos en ligne, particulièrement quand les apprenants et apprenantes travaillent en modalité distancielle, c'est-à-dire sans qu'un enseignant ou une enseignante soit à leur côté. Ce dernier choix a été motivé notamment par le fait que l'activité de compréhension de l'oral est anxiogène pour un grand nombre d'apprenants et que cette anxiété que peut créer le flux phonologique discontinu d'une vidéo authentique peut être endiguée éventuellement dans la modalité en distanciel parce que les apprenants contrôlent eux et elles-mêmes le processus réceptif. Ils peuvent arrêter la vidéo, revenir en arrière, se focaliser sur un passage, avancer selon leurs besoins. Le cadre dans lequel mon travail s'inscrit est donc l'approche par les tâches, Aufgabenhandlungsorientierung, sur laquelle je vais juste rapidement dire deux, trois mots. Il s'agit pour moi de concevoir des dispositifs d'enseignement et d'apprentissage en langue en allemand, hein, en appui sur les tâches, afin de permettre aux apprenants et apprenantes d'agir eux et elles-mêmes en étant des utilisateurs et utilisatrices de la langue cible, en étant des acteurs sociaux, des actrices sociales, tout en apprenant. Et je distingue notamment, en appui sur le cadre européen commun de référence pour les langues, les tâches cibles et les tâches pédagogiques. Rapidement, les tâches cibles sont déterminées en fonction des besoins futurs des apprenants et apprenantes. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles ou elles sont susceptibles de devoir réaliser en appui sur la langue cible qu'ils apprennent dans la vie future? Et puis, les tâches cibles jouent un rôle important à générique parce qu'elles constituent le point culminant d'une suite de moments d'enseignement-apprentissage. Tout est prévu en fonction de ces tâches cibles-là. Elles ont donc un rôle, pour moi, important cadrant au niveau ingénierique. Et les tâches pédagogiques, quant à elles, sont au service de la réalisation de la tâche cible et conçues à partir d'elles. Elles visent à impliquer l'apprenant dans une communication réelle. Et selon Rod Ellis, un des représentants du versant anglophone de l'approche par les tâches, les tâches pédagogiques invitent les apprenants à poser des questions, à y répondre ou à gérer de l'incompréhension, donc à négocier le sens. Au niveau ingénierique, on procède donc par une planification à rebours, Rückwärtsplanung, telle qu'elle est illustrée ici d'après une proposition de Hermann Funk et de ses collègues dans leur ouvrage de 2014. Le processus de planification réfléchit sur la tâche cible et puis imagine ou cherche des tâches pédagogiques qui ensuite permettront la réalisation réussie de la tâche. Ce qui m'intéresse également, c'est le lien entre les tâches et les textes. En effet, les tâches impliquent des textes, donc des entités discursives construites selon les règles de genre de texte. Par exemple, en tant que produit qui peut constituer l'aboutissement de la tâche, donc quelque part le signe que la tâche est réalisée et le cas échéant réussi. Et aussi en tant que document qui permettent de réaliser la tâche. Donc les textes en tant que source d'information, par exemple. Et Legutke et Thomas parlent ici de matériel au service des contenus, hein, content materials. Il y a pour moi un intérêt particulier de s'intéresser aux tâches pédagogiques, en lien aux textes particuliers que constituent les vidéos en ligne, parce que ces vidéos mettent en jeu à la fois l'ouïe et la vue. Il s'agit de traiter des aspects significatifs aussi bien dans les images que dans l'input, les formes langagières, ainsi que le cas échéant dans l'écriture filmique, hein, parce que beaucoup de vidéos ont recours à ces moyens sémiologiques spécifiques, les prises de vue, le montage, la lumière, etc. Donc, il y a aussi des significations qui sont conviées à ces moyens-là. Une vidéo en ligne implique l'activité langagière de compréhension audiovisuelle et depuis le volume complémentaire du cadre européen de 2018, cette activité fait partie entière des activités langagières. Le volume complémentaire distingue la compréhension générale de l'oral, la compréhension générale de l'écrit et la compréhension audiovisuelle. Ce qui est intéressant, c'est que cette compréhension audiovisuelle est aussi celle qui est en jeu dans les situations au sein d'un environnement authentique en langue cible. Donc, Bartsch-Dubnoy-Kitzig parle de authentischer fremdsprachlicher Kontext. Dans les interactions dans ces environnements, nous construisons du sens à partir de ce que nous percevons par l'ouïe, ce qui est aussi important que ce que nous percevons par la vue, et le verbal est aussi important que le non-verbal. Et ces rapports complexes, je voudrais ajouter, sont étudiés en didactique des langues également sous le terme de multimodalité. Alors, permettre aux apprenants d'allemand de déployer, de mettre en pratique cette activité-là et la soutenir me paraît donc particulièrement intéressant. Il y a aussi des observations que j'ai faites qui m'ont amené à m'intéresser à ces aspects-là. C'est que il n'y a pas que les apprenants qui ont un peu peur de la compréhension de l'oral ou d'un travail avec vidéo. Il y a aussi du côté des enseignants, du moins des enseignants novices avec lesquels j'ai la chance de travailler dans le cadre des Master MEF, qui ont une incertitude par rapport aux tâches à mettre en place. Lorsqu'il s'agit de l'activité de la compréhension de l'oral qui fait partie de la compréhension audiovisuelle, et aussi l'observation que dans les manuels d'allemand proposés par des éditeurs français, il y a relativement peu de variété en fait des tâches pédagogiques qui sont proposées. J'ai l'impression d'une prédominance des questions de compréhension. Il y a une assez forte focalisation sur le texte, l'input langagier, et l'image joue un rôle relativement secondaire. Quand il joue un rôle, ce sont des tâches comme regarder la vidéo sans le son, hein, qui sont relativement fréquentes. Alors, j'ai donc cherché dans la littérature en didactique des langues et cultures des réponses à la question, à savoir comment soutenir les efforts des apprenants en compréhension audiovisuelle. Cela a impliqué d'abord à m'intéresser à me pencher sur la question de la compréhension du langage. Hein, qu'est-ce qu'on entend par la compréhension du langage? Je vais très très rapidement rappeler ou indiquer que les sciences cognitives nous apportent le savoir. Par rapport à cette compréhension du langage, comprendre un message langagier est un processus hautement interactif et un processus de construction active. Il est interactif entre notamment les savoirs, les connaissances qui sont stockées en mémoire à long terme. Et les résultats du traitement des stimulus en mémoire à court terme, stimulus qui émanent de l'environnement. Et donc, c'est un processus de va-et-vient qui est bidirectionnel, selon les dires de Meissner, à la fois distinct et entremêlé, hein, et passe fortement par construction d'hypothèses et puis le retour vers les stimulus pour vérifier si les hypothèses sont cohérentes. Les moyens pour soutenir, comment soutenir l'activité de compréhension impliquant des vidéos en ligne? Les deux questions que je me suis posées dans ma thèse sont la question à quelles réponses sont données dans la littérature en didactique des langues et cultures, quels moyens y sont mis en avant, quels moyens soutenant la compréhension peuvent être intégrés dans des tâches pédagogiques et quelle est la perception des apprenants et apprenantes lorsqu'ils et elles réalisent des tâches pédagogiques conçues à partir des recommandations faites dans la littérature lors du visionnage de vidéos. Et ces tâches-là sont-elles perçues comme aide pour accéder au sens? En ce qui concerne l'aspect A, la question A, je vais vous parler aujourd'hui de deux moyens issus de la littérature sur les quatre que j'ai trouvés, qui me paraissaient les plus intéressants aussi pour un public éventuellement d'enseignants. C'est d'un côté la clarification de l'input et les consignes qui impliquent la mise en œuvre de stratégies d'apprentissage. Donc, on va s'intéresser à la clarification d'écoute et aux stratégies d'apprentissage. La clarification de l'input, en anglais elaborated input, est un concept qui est issu de la recherche en acquisition d'une langue seconde ou étrangère anglophone, Second Language Acquisition Research. Et de cette recherche est également issu l'enseignement-apprentissage centré par les tâches, donc le versant anglophone de l'approche par les tâches. Quelques représentants éminents sont Rod Ellis, David Noonan, Michael Long et beaucoup d'autres. Ce concept est ancré dans les observations qui ont été faites à partir du foreigner talk, c'est-à-dire la manière dont les locuteurs natifs interagissent avec les locuteurs non natifs pour et les procédés qu'ils mettent en place pour rendre leur discours compréhensible. Et cette observation a donc permis d'isoler des procédés par lesquels les individus locuteurs natifs arrivent à rendre le discours compréhensible, en distingue de manière globale les procédés de simplification et de clarification. La simplification correspondrait à raccourcir les structures syntaxiques, à utiliser un lexique plus fréquent et plus général et moins spécifique. On connaît bien en allemand la simplification de l'écoute parce que je ne sais pas si c'est langsam gesprochen, non, pas langsam gesprochen, c'est plus einfaches Deutsch. Aujourd'hui, dans beaucoup de sites et médias allemands, on a maintenant, il y a aussi les informations einfaches Deutsch qui renvoient effectivement à ces caractéristiques de simplification, mais aussi de limitation lexicale, syntaxique. Même le site, ça m'étonne pas. Oui, c'est vraiment généralisé dans un souci en fait d'intégration, non seulement des habitants qui viennent d'ailleurs, mais aussi des personnes limitées au niveau cognitif, etc. Vraiment, voilà. Ce qui est problématique, par contre, ce qui est mis en avant par Lang de ces simplifications, c'est qu'on enlève justement dans l'input ce qui pourrait servir à l'apprentissage. C'est les réductions ôtent précisément les éléments qui permettraient d'apprendre. Donc, par contre, c'est important clarifier, mais pas simplifier. Et pour vous illustrer ce qu'on entend par clarification, je vous ai apporté un exemple de Michael Lang de 2007, mais qu'il reprend également dans son livre de 2015, que j'ai traduit. Donc, c'est les phrases à propos de Paco que j'ai traduit en allemand et on voit un peu le passage, les différences. Donc, l'original, l'input non modifié, weil er nachts arbeiten musste, um seine Familie zu ernähren, schlief Paco oft im Unterricht ein. La version simplifiée serait Paco musste Geld für seine Familie verdienen, Paco arbeitete nachts, er schlief oft im Unterricht ein. Et la clarification, Paco musste nachts arbeiten, weil er Geld für seine Familie verdienen musste. Deshalb schlief er am nächsten Tag oft im Unterricht ein, wenn sein Lehrer etwas erklärte. Alors, ces phrases à propos de Paco permettent d'illustrer deux principes qui avaient été isolés dans le cadre de ces recherches-là. Et pas le troisième, j'en dirai un peu plus. Je donnerai d'autres exemples. Les deux principes qui sont illustrés, c'est la redondance. Donc, on voit que les liens de cause à effet sont indiqués en deux phrases et on a deux marqueurs, weil et deshalb. Et on a une paraphrase qui se rapproche du sens de l'original. À la place de seine Familie ernähren, Geld für seine Familie verdienen. La redondance peut être aussi amenée par des synonymes, bien sûr. Tout ça, c'est des procédés qu'on connaît, les enseignants connaissent en fait, hein, mais là, c'est un peu systématisé. Le principe d'explicitation, on peut estimer que c'est le lien de cause à effet qui a été explicité. Ce qui a été explicité également, c'est donc on n'a pas le pronom personnel Ea en tête et Paco hein, par la suite, on a tout de suite Paco qui indique la personne. Il y a le rapport temporel qui est rendu explicite également. C'est après avoir travaillé que Paco s'endort le lendemain. Donc c'est ça qu'on peut comprendre par explicitation. Et puis le troisième principe, la conformité aux règles ou normes, regularity. J'ai du mal en fait avec la traduction. Je ne sais pas si c'est tout à fait conformité aux règles ou aux normes. Ce n'est pas représenté ici, on n'a pas, c'est pas illustré, mais ça concerne par exemple un ordre des constituants dans la phrase plutôt canonique. On peut discuter ce que ça veut dire, ou encore le fait qu'un énoncé reprend les événements dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Ça, c'est peut-être plus parlant. En exemple, on va plutôt dire: Das Flugzeug war schon abgeflogen, als die Familie am Flughafen angekommen ist, dans l'ordre des événements, au lieu de dire: Bevor die Familie am Flughafen angekommen ist, war das Flugzeug schon abgeflogen. Donc ça, c'est pour mieux prendre par la main finalement un interlocuteur. Ce qu'on remarque grâce aux exemples dans le tableau, c'est à la différence de l'input simplifié, qui est bref, court, l'input clarifié reste complexe et il est même plus long que l'original. Ce que je n'ai pas intégré dans la diapo, mais qui est important à souligner, c'est que la clarification de l'input fait partie des 10 principes méthodologiques de l'enseignement-apprentissage centré sur les tâches, formulés par Catherine Doughty et Michael Long en 2003. Donc, ils ont formulé 10 principes méthodologiques de l'approche par les tâches. Un input riche fait partie de ces principes méthodologiques, mais aussi la clarification de l'input. Donc, c'est vraiment un point important. Les consignes qui invitent, le deuxième moyen, les consignes qui invitent à mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage. J'ai isolé dans la définition de Oxford 2017 les aspects centraux de ce que l'on entend par stratégie d'apprentissage. Il s'agit de pensées d'actions complexes et dynamiques sélectionnées et utilisées par les apprenants et apprenantes, afin de réguler de multiples aspects d'eux et d'elles-mêmes, tels que les aspects cognitifs, émotionnels et sociaux, dans le but d'accomplir des tâches linguistiques, d'améliorer la performance ou l'utilisation de la langue, et ou d'améliorer la compétence à long terme. Les stratégies permettent donc d'améliorer la performance ou l'utilisation de la langue, et les activités réceptives ou la compréhension constituent une manière d'utiliser la langue, bien sûr. Lors d'un exemple d'une stratégie, lors d'une activité réceptive qui serait d'un ordre métacognitif, donc qui relève de la réflexion sur le comment, de l'agir, du penser et de l'apprendre, ce serait de planifier cette activité réceptive, par exemple en se faisant d'abord une idée générale du document, du contenu du document qu'on va lire ou qu'on va regarder, qu'on va écouter. Les stratégies sont donc sélectionnées par l'apprenant, l'apprenante, et cela fait partie de ce qu'on a pu appeler les facteurs individuels dans le passé. Et le travail sur les stratégies d'apprentissage s'inscrit par ailleurs dans une perspective cognitiviste également. Mais en didactique des langues et de culture de langue allemande, les chercheurs, par exemple Meissner, Rösler, Würfel, Bimmel, s'appuie sur les recherches de Westhoff, qu'il avait fait en compréhension de l'écrit, pour défendre une position selon laquelle l'agir stratégique peut être intégré au sein des tâches pédagogiques que les apprenants et apprenantes réalisent en situation réceptive. Donc, Rösler et Würfel parlent à ce propos de la mise en œuvre de stratégies qui est intégrée dans les contraintes et ressources de la tâche et fait partie de la consigne elle-même. La visée est alors de permettre le développement de stratégies mobilisables dans les situations de contact avec la langue cible en dehors de l'enseignement-apprentissage. Et c'est cet aspect-là qui décidera du jugement, est-ce qu'une stratégie est pertinente ou pas, c'est si elle peut servir dans un contexte hors enseignement, c'est là où elle est pertinente par rapport dans une perspective de conception par l'enseignant. J'ai apporté quelques exemples d'actions d'apprentissage stratégique liées aux situations impliquant l'activité réceptive. Donc, j'ai déjà parlé de la planification de l'apprentissage, de planifier son propre processus de lecture, d'écoute, de visionnage. Donc, une stratégie métacognitive. Ici, la liste indique les stratégies cognitives qui concernent l'utilisation réceptive de la langue, lire, écouter et regarder. Et c'est concrètement prédire ou anticiper les contenus d'un texte, formuler, vérifier des hypothèses, deviner des significations sur la base d'indices linguistiques, mais aussi déduire des significations à partir d'éléments extra-linguistiques à partir du contexte, utiliser les informations fournies par des images pour émettre des hypothèses ou les vérifier, systématiser ou résumer les informations à l'aide d'une figure, donc il s'agit de visualiser aussi les informations, en allemand on parle de Anschaulichkeit, les rendre accessibles par les représentations plus imagées, ignorer les mots inconnus et relier de nouvelles informations à ses propres connaissances, créer des liens entre tout ça, ça renvoie également aux ces processus cognitifs que j'ai abordé rapidement. Donc, je viens de vous présenter ces deux moyens que j'ai trouvé dans la littérature. En tout, j'en avais trouvé quatre. J'en arrive maintenant à ce qui a constitué ma deuxième question de recherche et le cadre a un peu sauté sur ma diapo, mais c'est pas grave. Les apprenants perçoivent-ils les moyens issus de la littérature quand ceux-ci sont intégrés dans les tâches pédagogiques? Les perçoivent-ils comme soutenant la compréhension des vidéos authentiques en ligne, en distanciel? J'ai donc mis en place un protocole d'observation pour recueillir des données afin de répondre à cette question. Et pour ce protocole, des tâches pédagogiques intégrant les moyens que j'ai présentés, les deux moyens plus deux moyens supplémentaires ont été conçus. Donc c'est le type C de tâches pédagogiques. Insérer dans une démarche en mode hybride, donc qui alterne des phases en face à face et des phases en distanciel, visant la réalisation d'une tâche cible. Pour mettre en perspective ce type de premier type de tâche pédagogique et pour obtenir des prises de position plus nuancées, plus détaillées de la part des participants et participantes, j'ai introduit deux autres types d'activités pédagogiques répandues. Quand les apprenants et apprenantes travaillent en distanciel avec des vidéos authentiques. Et c'est un travail d'analyse de scénarios en classe inversée en langue que j'ai entrepris avec Elke Nissen qui a permis de les isoler. Ce sont des types A et B et j'expliquerai dans un instant en quoi ils consistent. Donc, ce sont trois types de tâches et d'activités pédagogiques qui ont fait partie de mon protocole d'observation A, B et C. Le protocole s'appuie sur trois tâches cibles pour l'apprentissage de l'allemand. Elles ont été conçues en appui sur une représentation des besoins en termes de compétences à communiquer l'engagement des futures participantes à l'étude. Et les trois tâches ont chaque fois mis en scène une demande fictive d'un organisme germanophone ou multilingue adressée à des étudiants et étudiantes français pour connaître leurs avis et leurs ressentis au sujet d'un des projets fictifs de ces demandeurs, ces donneurs de mission. Et pour chaque tâche cible, il y avait deux vidéos dont les contenus pouvaient enrichir la réalisation de la tâche cible. Et cette réalisation a nécessité de passer par un échange d'informations. J'ai donc introduit ce qu'on appelle un information gap. Les différents apprenants n'avaient que des informations partielles. Il fallait qu'ils les mettent en commun pour réaliser la tâche. L'accomplissement de chaque tâche consiste en la formulation d'une réponse collective à la demande fictive de cet organisme. Le protocole qui a permis le recueil des données a été adossé à des cours existants, mais sans lien interne au protocole. Il y a eu trois cycles avec respectivement une phase en distanciel et en présentiel. Et les participants au recueil de données sont les étudiants et étudiantes inscrits dans trois cours d'allemand dans le secteur LANSAD, langue pour spécialistes d'autres disciplines, telles que le Centre des langues à Lyon 2, mais c'était aussi l'école centrale qui a participé, 24 étudiants du côté de l'école centrale et 6 participants du côté de Lyon 2 qui se sont organisés par affinité en groupe de 3 ou de 4. La phase de préparation individuelle en distanciel a eu lieu sur le site de réseautage et de Moodle. Chaque participante a eu l'occasion de réaliser les trois types de tâches ou d'activités pédagogique avec trois des six vidéos du dispositif. un détail au niveau de l'organisation. Donc, pour la réalisation, les groupes ont quitté à tour de rôle pendant 20 à 25 minutes les cours d'allemand pendant qu'ils se déroulaient. Donc, ça, c'est vraiment organisé en parallèle au déroulement de cours concrets existants. Ce sont donc trois types de tâches et d'activités pédagogiques qui ont été mises à l'épreuve du terrain. Le type A et B, identifié comme répandu en classe inversée en langue, et le type C, qui a mis en œuvre les moyens repérés dans la littérature. Le type A, qui consiste en l'explication d'une démarche stratégique à appliquer avec toute vidéo, donc une démarche générique. L'idée derrière, c'est qu'on peut donner cette démarche et elle va aider à comprendre n'importe quelle vidéo. Et concrètement, il s'agit d'une certaine technique de prise de notes. Pour ce type d'activité, le terme méthodologie est parfois utilisé par les enseignants et ex-enseignants de langue. On croise ce terme-là. Et le type B, qui correspond à des questions dites de compréhension. Les apprenants et apprenantes repèrent dans la vidéo les informations qui permettent de répondre aux questions posées et formuler les réponses. Et qui y formulent les réponses. Le type C avait donc déjà été présenté. Je vais rapidement montrer, en espérant que l'affichage n'est pas trop distendu, les méthodes de recueil, les données recueillies et analysées. J'ai aussi, c'était donc essentiellement des données quantitatives, mais j'ai aussi recueilli les tâches et activités réalisées en distanciel. Et il y a une partie des données qui n'ont pas été analysées ni utilisées dans ma thèse. Et je voudrais donc donner quelques éléments de réponse à la question de recherche B, à savoir le premier aspect, c'était la perception des moyens mis en œuvre dans les tâches pédagogiques du type C, hein, et si les apprenants les percevaient. J'ai donc j'ai demandé aux apprenants si les différentes activités et tâches pédagogiques avaient aidé à comprendre la vidéo et pour quelles raisons. Et j'ai fait une analyse du contenu de ces réponses-là par rapport au soutien qu'apportaient les différents types et en quoi ce soutien consistait. Et j'ai comparé les apports indiqués par les étudiants et étudiantes aux apports potentiels que l'on peut repérer dans la littérature en didactique des langues. Et si on regarde le nombre d'unités d'analyse dans les réponses qui spécifient un apport pour les trois types de tâches et d'activités, on voit que les apprenants et apprenantes repèrent davantage d'apports mis en avant dans la littérature pour le type A, donc la prise de notes, hein, cette technique de prise de notes, que pour le type C. Donc, ils semblent voir davantage les moyens, en fait, percevoir davantage les moyens mis en œuvre. Ce qui est compliqué dans ce résultat, c'est que presque la moitié des réponses des étudiants indiquaient que le type A n'aide pas à comprendre la vidéo. Donc là, c'est que la partie qui disait que ça aidait et qui, effectivement, avait repéré les mêmes aspects qui sont mis en avant dans la littérature en didactique des langues. Par rapport au type B, alors que dans la littérature, on a plutôt des limites qui sont mises en avant, hein, pour le type B, des limites potentielles, les questions de compréhension, donc c'est plutôt critiqué, hein, comme moyen pour soutenir l'accès au sens. Les apprenants, quant à eux, soulignent l'apport, surtout que ça aide à comprendre, et ils soulignent surtout que l'apport consiste à diriger l'attention sur l'essentiel. Donc c'est 54% des unités d'analyse qui mettent en avant ça. Et par rapport à l'aide perçue plus généralement, hein, par les tâches et activités pédagogiques, on peut donc remarquer qu'il y a une légère avance des tâches pédagogiques du type C, hein, donc celles qui étaient plus riches finalement en moyens de soutien, quant à la perception de l'aide, mais c'est suivi de très près par la perception de l'aide apportée par le type B. Il n'y a presque pas de différence. Point important, c'est que globalement, toutes les tâches et activités pédagogiques sont majoritairement perçues comme aide à la compréhension. C'est presque un peu comme si les apprenants disaient, mais donnez-nous quelque chose, quoi, au lieu de ne rien nous donner. Et puis, un point important aussi dans les résultats, c'est que les réserves, dans les limites mises en avant, concernent majoritairement le type A, le type de prise de notes, hein, ces techniques spécifiques de prise de notes, où les apprenants mettaient surtout en avant que ça ne correspondait pas à leur technique habituelle et ça les a dérangés. Hein, quand on leur impose quelque chose de technique qui ne correspond pas à leurs habitudes et aussi à leurs préférences. Donc, il y a aussi le facteur affectif qui est souvent mis en avant. Je n'ai pas aimé cette activité. Voilà, donc c'est aussi qu'ils n'avaient pas, c'était le type d'activité qu'ils avaient ils estimaient qu'ils avaient le plus l'habitude de faire ce genre de choses. C'était contrasté en fait. D'un côté, ils ont l'habitude de prendre des prises de notes, mais pas ce type de prise de notes. Et ça visiblement, ça a créé des résistances. Je vais afficher juste la bibliographie.